Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, la cohue sur la croisette. Tom Cruise au Festival de Cannes, tapis rouge pour la star et Top Gun Maverick, salué dans le ciel cannois par la patrouille de France. Europe 1 était à bord, récit complet dans un instant. En mai, fais ce que tu peux pour fuir la chaleur. Jusqu'à 35 degrés à l'ombre aujourd'hui dans le sud, des records de température sont tombés. Coup de massue chez Vallourec, le fabricant de tubes va supprimer plus de 300 emplois en France. Vous entendrez l'inquiétude d'un salarié dans le Nord. Elisabeth Borne doit former son gouvernement avant le week-end. La première ministre enchaîne les rendez-vous à Matignon alors qu'approche l'annonce du remaniement. Premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Un soldat russe jugé pour avoir tué un civil ukrainien. Il plaide coupable. Les températures demain vont descendre d'un cran avec des averses orageuses sur la moitié nord. L'invité éco à 22h20, je recevrai Alexandre Martin, cofondateur de Colonies. Il propose du co-living. Il paraît que c'est la coloc 2.0. Il nous expliquera ça. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse demain matin.
Europe 1.
Superstar et avion de chasse sur la croisette. Le Festival de Cannes était en ébullition ce mercredi avec la visite de Tom Cruise venu présenter hors compétition Top Gun Maverick dont Europe 1 est partenaire. Comeback de Top Gun, comeback de Tom Cruise. Il n'était pas venu à Cannes depuis 30 ans, c'est dire l'effervescence autour du tapis rouge, Marie Jiquel.
Et oui, Alexandre, arrivé de star en hélicoptère, un Tom Cruise avenant, lunettes aviateur et grand sourire, de quoi ravir les fans de l'acteur venus bien nombreux.
Je suis contente, voilà, de le voir en vrai. Puis il n'est plus venu depuis plus de 30 ans, donc c'est surtout ça en fait qui fait l'événement. Il a l'air sympathique et il a eu facile à nous approcher. C'est plus la sécurité qui mettait des limites que lui.
Ça fait bizarre de voir sa star en vrai, donc voilà. Très ému, voilà, ça c'est sûr. J'aime tous ses films, j'adore en fait ce qu'il représente.
Bon, il a changé certes, mais c'est un excellent acteur, ouais, puis c'est un bel homme.
Tom Cruise s'est ensuite confié lors d'une masterclass sur son goût du risque, qui ne le quitte pas depuis l'enfance, son amour pour les cascades et sa réticence quant aux plateformes de streaming, une déclaration d'amour au cinéma.
Je comprends le business, je comprends le système des plateformes de streaming, mais je fais des films pour le grand écran. Et c'est la beauté du cinéma, c'est de partager une expérience. Quelle que soit notre culture ou notre langue.
Accompagné par le casting de Top Gun Maverick, Tom Cruise a rejoint le tapis rouge et il en a bien profité, Alexandre. Il a signé des autographes, salué la foule, il a pris son temps, il a rattrapé 30 années d'absence à Cannes. Alors Tom Cruise sur la croisette, c'était déjà un événement, mais les festivaliers ont détourné le regard pour admirer la patrouille de France.
La patrouille de France fait l'honneur à Tom Cruise de survoler le palais des festivals et puis de nous gratifier d'une magnifique envolée. C'était Maverick, quoi. C'était Top Gun en direct, live, avec Tom Cruise.
Voilà un clin d'œil magistral à Top Gun. On sent que Cannes a sorti le grand jeu pour Tom Cruise, 60 ans et 40 ans de carrière. Et là, à l'heure où je vous parle, Alexandre, la projection de Top Gun vient de se terminer. Long standing ovation pour le film. Et la journée s'achève en beauté avec une palme d'or d'honneur pour Tom Cruise qui n'a pas fini de nous étonner.
Merci Marie Jiquel en direct du Festival de Cannes. La patrouille de France, vous l'avez entendu, a donc effectué un passage à la verticale du Palais des Festivals. Fumigène bleu-blanc-rouge de rigueur et un moment exceptionnel pour vous, Johan Tritz. Vous étiez pour Europe 1 à bord d'un des Alpha Jets de la patrouille. Alors racontez-nous, Johan, racontez-nous le survol de la croisette en avion de chasse.
Oui, je peux vous dire, c'est vrai, j'étais dedans et la pression n'est toujours pas retombée, Alexandre, si vous voulez tout savoir, parce que je me suis vraiment senti comme dans Top Gun, hein, mais il fallait avoir le cœur bien accroché, on ne va pas se mentir, parce que ça commence dès le décollage avec une accélération intense, puis on s'est dirigé vers Cannes, paysage magnifique avant avec Toulon, Saint-Tropez, etc. Puis une fois arrivé sur la croisette, moment long, très long, parce qu'on attendait la venue de qui ? De Tom Cruise sur les marches, et il a du retard, évidemment. En attendant, on tournait en rond avec l'Alpha Jet, au total 15 15 minutes de virage, imaginez-vous. Et puis d'un coup, le top départ. Les avions s'emballent, formation en diamant avec des avions rapprochés à quelques mètres les uns des autres. Je pouvais presque les toucher. Et juste au-dessus du tapis rouge, les pilotes lâchent les fumigènes bleu, blanc, rouge. Puis un demi-tour, rebelote une deuxième fois, cette fois-ci en virage serré. Imaginez mon état. Et à ce moment-là, j'étais bien accroché au siège. Hein. Mais ça va parce que ça a duré à peine 3 minutes tout ça. Puis ensuite, retour à la base pour un atterrissage en douceur. Bon, je ne ferai pas ça tous les jours. Mais par contre, quelle magnifique expérience, Alexandre.
Johan Tritz en direct de Cannes. Merci Johan. Vous allez bien dormir cette nuit ou pas. Europe 1 partenaire de Top Gun Maverick. Plus qu'une semaine d'attente maintenant, puisque Top Gun Maverick sera en salle dès mercredi prochain. Le joli mois de mai s'est transformé en fournaise aujourd'hui. Trop chaud, trop tôt, des records de température ont été battus dans la moitié sud. On a frôlé les 34 degrés à Toulouse, Albi et Montélimar, 35 à l'ombre au Cap Ferret en Gironde. Le mercure qui s'est aussi affolé à Bordeaux, Stéphane Place.
Alors, pour vous donner une petite idée, cet après-midi, le thermomètre a tutoyé les 32 degrés, coup de chaud particulièrement difficile pour Kamal, par exemple, qui, avec ses collègues, construit un immeuble ici, à Talence.
Physiquement, oui. Ah oui, on est épuisé, oui. On essaie de se mettre un peu à l'ombre, de boire. Là, on fait un plancher, on est en plein soleil.
Ce soir, qu'est-ce qui va être le meilleur là ?
Une très bonne douche, une petite bière, et voilà.
Et ces températures, c'est aussi un casse-tête pour Audrey dans sa petite boutique de plantes et de fleurs.
Ah ben ça fragilise toutes les fleurs, les plantes, on a intérêt de faire attention. Donc moi j'ai le climatiseur, je veux pas de chambre froide. Je travaille en circuit court, donc je le mets que quand il fait effectivement très chaud, parce qu'après il faut penser aussi, on consomme... la pollution, tout ce qu'il y a autour d'une climatisation.
C'est de la marchandise sensible à la chaleur.
Ah ben en une journée, vous pouvez tout jeter. Hein. C'est compliqué, il faut gérer.
Ombrelle, bob, casquette, c'est l'équipement indispensable pour protéger les petits dans leur poussette ou sur le vélo des parents. Les enfants sont aussi confrontés à la chaleur.
Bah oui, c'est vrai que les enfants dorment moins bien. Mais bon, après, on a une maison qui est assez fraîche, donc ça va.
J'ai une clim chez moi.
Et le sommeil n'est pas perturbé ?
Non, grâce à la clim.
Mais cette nuit, si l'on en croit les prévisions, eh bien, c'est plutôt l'orage qui risque de nous réveiller.
Ouais, quelques orages, ça ferait du bien quand même. Merci Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Ce premier coup de chaud de l'année atteint son pic au moment précis où l'ONU publie son rapport annuel sur l'état du climat mondial. La conclusion est sans appel, c'est une alerte rouge. 4 marqueurs clés du réchauffement climatique ont battu de nouveaux records l'année dernière, Louise Salé.
Oui, cela fait beaucoup. 4 records pour une même année. Les concentrations de gaz à effet de serre, le niveau de la mer, l'acidification des océans. Ça, c'est un phénomène physique. Hein. Quand l'eau se réchauffe, eh bien, elle devient plus acide. Et les températures. Les 3 premiers marqueurs climatiques battent malheureusement des records chaque année puisque les hommes émettent davantage de CO2 avec un effet réchauffant. Le 4e marqueur, en revanche, est moins fréquent, mais il est très alarmant. Les 7 dernières années écoulées ont été les 7 les plus chaudes jamais enregistrées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce matin à l'abandon immédiat des énergies fossiles.
Le système énergétique mondial est en panne et nous rapproche de plus en plus d'une catastrophe environnementale. Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d'incinérer notre seule maison. Le temps presse.
Le réchauffement climatique a déjà dépassé la barre des 1 degré, malgré tous les beaux discours insistant sur l'urgence de se verdir. Tous les marqueurs restent bloqués au rouge.
Louise Salé, le temps presse, ce message du patron des Nations Unies aux dirigeants du monde entier. En attendant, tout est bon pour se rafraîchir, mais en Gironde, la préfecture met en garde contre des imprudences qui peuvent tourner au drame. La baignade est déconseillée sur toutes les plages du département, car depuis dimanche, 3 personnes sont mortes noyées sur le littoral girondin. 2 surfeurs hier à Lège-Cap-Ferret. Le maire Philippe de Gonneville met en garde contre les dangers de l'océan.
En début de saison, la mer est particulièrement dangereuse parce que vous avez des houles très puissantes qui génèrent des dangers liés à ces fameux courants de baïd qui ont tendance à emporter les baigneurs vers le large et à provoquer des drames comme nous avons vécu hier. Je crois que dans ces conditions-là, il faut se baigner jusqu'aux genoux et pas aller plus loin. Il faut savoir que dès qu'on atteint la taille, il y a danger parce que les baïnes, c'est-à-dire ces cuvettes, peuvent vous entraîner par le fond, tout simplement parce que vous faites un pas en avant et vous n'avez plus pied, vous perdez pied. Et si vous perdez pied à cet endroit-là, eh bien, ça peut devenir extrêmement dangereux.
Et Philippe de Gonneville avec Saïma Selimi. Et cet après-midi encore, un homme a été sauvé in extremis, réanimé sur sa planche de surf. Les salariés de Vallourec redoutaient cette annonce de leur direction. Le fabricant français de tubes sans soudure va supprimer 3000 postes dans le monde, dont plus de 300 en France, majoritairement dans le Nord. À l'usine de Saint-Saulve, une centaine de postes sont concernés. Première réaction de Frédéric, salarié Vallourec.
On s'y attendait, mais c'est le coup de massue, quoi. C'est forcément le coup de massue et c'est compliqué à gérer, quoi. Pour individuellement. Après, nous, derrière, on a tous des familles à gérer. On a aussi des prestataires autour de Vallourec, qui eux aussi sont impactés. Ça aussi, il faut y penser. Hein. Moi, je n'ai que 20 ans d'ancienneté à Vallourec. C'est déjà pas mal, mais bon, je pense à un de mes collègues, par exemple, dans mon équipe, lui, il a fait toute sa carrière ici. En fin de carrière, on lui annonce que son entreprise, elle ferme. Quelque part, c'est compliqué à gérer aussi. Hein.
Comment la direction justifie-t-elle cette décision ?
Entre ce qu'ils expliquent et ce que nous on pense, ils veulent plus de Vallourec en Europe, quoi, clairement. À terme, ça va être ça, on en est convaincus. Moi, je pense vraiment que parce qu'on coûte trop cher, enfin, à leur dire.
Qu'est-ce qui compte maintenant ?
Partir avec un plan, avec ce qu'on mérite, avec le nombre d'années qu'on a passé ici. Et puis, derrière, retrouver du travail rapidement, quoi. C'est très important pour nous, pour tout le monde, quoi. On ne veut pas rester comme ça. Le chômage, ce n'est pas une option pour nous.
Un salarié de Vallourec à Saint-Saulve dans le Nord, au micro de Lionel Gougelot. Ces suppressions d'emplois chez Vallourec seront sans doute l'un des premiers dossiers test sur le bureau d'Elisabeth Borne à Matignon. La première ministre a enchaîné aujourd'hui les consultations pour former le nouveau gouvernement, Jacques Seret.
Oui, Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous. Elle a reçu ce matin à Matignon deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Elle s'est entretenue également avec les poids lourds de la majorité, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le patron du Modem, François Bayrou, ainsi que Christophe Castaner, le président du groupe des députés La République En Marche, Stanislas Guérini, le délégué général du parti. Et Elisabeth Borne a eu au téléphone le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Officiellement, je cite Matignon, la première ministre poursuit le travail d'élaboration de l'équipe gouvernementale. Alors rien ne filtre de ces échanges, mais l'on imagine aisément la teneur de ces conversations, car la composition du prochain gouvernement fait l'objet d'intenses tractations. Il s'agit pour Elisabeth Borne, au-delà des compétences des personnalités politiques sélectionnées, de trouver un équilibre, montrer dès maintenant qu'elle écoute, qu'elle prend en compte les remarques de chacun de ses interlocuteurs, démarche sincère ou pas. Pour son deuxième jour à Matignon, Elisabeth Borne a souhaité échanger avec les partenaires sociaux et les présidents des associations d'élus, sans oublier dans le même temps la campagne des législatives. Un de ses conseillers confirme qu'elle se rendra bien en fin de semaine dans sa circonscription du Calvados.
Jacques Seret. Le candidat En Marche, Jérôme Perra, retire sa candidature aux législatives en Dordogne. Il a été condamné il y a 2 ans pour violence conjugale, après l'avoir décrit ce matin comme un honnête homme. Stanislas Guérini, le délégué général de LREM, lui a finalement demandé de jeter l'éponge. Marine Le Pen veut proposer une loi pour interdire le port du burkini à la piscine. Autorisée désormais à Grenoble, la candidate RN aux législatives n'était pas aujourd'hui dans sa circonscription du Pas-de-Calais, mais plus à l'est, dans la Meuse, pour soutenir deux autres candidates du Rassemblement national. Marine Le Pen en a profité au passage pour tacler l'Union de la gauche et son leader, Jean-Luc Mélenchon.
Dans cette compétition législative, nous avons un nouveau venu, la NUPES, emmené par un Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de sortir la carte magouille de sa soi-disant possible élection comme Premier ministre, comme si on élisait les Premiers ministres dans notre pays. Mais il fallait bien ce mensonge énorme et honté pour peut-être cacher le fait qu'en réalité, il quitte la vie politique. Moi, ce que je vois, c'est que comme il ne sera pas Premier ministre, il ne sera pas non plus président de son groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, en réalité, c'est un moyen de quitter la vie politique sur la pointe des pieds, puisqu'il n'est plus candidat aux législatives.
Marine Le Pen au micro de Victor Chabert. Coup de filet dans la mouvance de l'ultra-droite. 11 suspects interpellés et placés en garde à vue autour d'un groupuscule baptisé Vengeance Patriote. Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Le premier procès pour crime de guerre s'est ouvert ce matin à Kiev, en Ukraine. Derrière la vitre, sur le banc des accusés, un jeune soldat russe, 21 ans. Il comparaît pour avoir abattu à la Kalachnikov un Ukrainien âgé de 62 ans qui poussait son vélo avec son téléphone. On va revivre avec vous l'ouverture de ce procès, Thibaut Hu.
Oui, ça se passe dans une salle étroite. L'accusé, enfermé dans un box vitré, crâne rasé et vêtu d'un sweatshirt kaki et bleu à capuche. Entouré de deux policiers armés, il répond aux questions du juge, assis en face de lui.
Est-ce que vous comprenez ce dont vous êtes accusé ?
Oui.
Plaidez-vous coupable ?
Oui.
Complètement ?
Vous ne refusez pas de témoigner ?
Non.
L'audience a ensuite été suspendue. Elle reprendra demain avec l'audition de témoins. Ce procès, le premier en la matière depuis le début de la guerre, est très symbolique en Ukraine. Vadim Chichimarine risque donc la prison à vie s'il est condamné pour crimes de guerre et meurtre avec préméditation. Des termes qu'a contesté son avocat Viktor Ovniakov.
Sa reconnaissance ne témoigne que de son sentiment intérieur. Il ne nie pas les faits, il ne nie pas le meurtre, mais j'ai certains doutes concernant la qualification de ses crimes. L'accusé ne connaissait pas tous les détails du code pénal ukrainien.
Et en effet, la notion même de crime de guerre répond à des standards internationaux très précis qui sont examinés, vérifiés de façon indépendante. La Cour pénale internationale a d'ailleurs annoncé le déploiement dans les prochains jours de 42 enquêteurs et experts dans le pays.
Thibaut Huge, c'est un sujet majeur pour les Européens, trouver la bonne formule pour se passer au plus vite des hydrocarbures livrés par la Russie. La Commission de Bruxelles a dévoilé ce matin son plan pour ne plus dépendre en particulier du gaz russe qui représente près de la moitié des importations européennes. La principale solution qui se dessine, Maud Descamps, eh bien c'est un grand coup d'accélérateur à la transition énergétique.
Oui, Bruxelles veut une refonte massive du système énergétique européen pour sortir au plus vite des énergies fossiles russes, comme l'a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Aujourd'hui, nous devons porter nos ambitions encore plus loin pour assurer notre indépendance face à la Russie en matière d'énergie fossile le plus vite possible. Faire des économies d'énergie est l'action la plus rapide et la moins coûteuse que nous pouvons mettre en place. Notre objectif de réduction de consommation d'énergie passera de 9 à 13% d'ici 2030.
La Commission veut aussi sécuriser ses approvisionnements en gaz et en pétrole en trouvant des routes alternatives, mais aussi en augmentant ses importations de GNL, gaz naturel liquéfié, en provenance des États-Unis. Et enfin, la Commission veut développer massivement les énergies renouvelables. L'idée est de passer de 40 à 45% la part du renouvelable dans le mix énergétique européen d'ici 2030, en doublant par exemple la part de toitures solaires ou encore en facilitant l'implantation d'éoliennes.
Merci Maud Descamps. Et j'ajoute que 4 pays d'Europe du Nord mettent le turbo sur l'énergie éolienne. L'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique s'engagent à multiplier par 10 l'éolien en mer du Nord d'ici à 2050, à la fois bien sûr pour lutter contre le réchauffement climatique et pour s'affranchir des énergies fossiles en provenance de Russie. Une question maintenant qui agite le monde du football. Le joueur sénégalais Idrissa Gueye avait-il quelque chose derrière la tête en déclarant forfait samedi dernier à Montpellier, journée mondiale de lutte contre l'homophobie? La Fédération française de foot se demande si le milieu de terrain du PSG n'a pas ainsi refusé de porter le maillot arc-en-ciel, Cyril de la Morinerie. Le Conseil national de l'éthique de la FFF le somme de s'expliquer.
Oui, dans un courrier adressé à Idrissa Gueye, le Conseil national de l'éthique demande aux joueurs de clarifier sa situation. Votre absence est interprétée comme un refus de participer à une opération de sensibilisation contre les discriminations, écrit l'instance. Soit ces supputations sont infondées. Nous vous invitons alors à accompagner votre réponse d'une photo de vous portant le maillot arc-en-ciel. Soit ces rumeurs sont exactes et nous vous demandons de prendre conscience de la très grave erreur commise. Fin de citation. En fonction de la réponse d'Idrissa Gueye, le Conseil national de l'éthique pourrait transmettre le dossier à la commission de discipline de la fédération. L'attitude du joueur est très critiquée, notamment par l'association Football Ensemble, présidée par Johan Lemaire, qui fut le premier joueur de foot en France à révéler son homosexualité.
Il avait déjà fait le coup l'année dernière, on s'y attendait un petit peu, mais au moins cette année, j'ai le sentiment que le PSG ne l'a pas couvert. On ne te demande pas d'être gay, on ne te demande pas de militer, c'est juste un match de foot et montrer exemple aux gamins.
En attendant, Idrissa Gueye a reçu le soutien du président du Sénégal, Macky Sall, qui estime que les convictions religieuses du joueur doivent être respectées. Le Sénégal qui punit d'un à cinq ans d'emprisonnement l'homosexualité.
Cyril de la Morinerie, le temps pour demain, jeudi, Marlène Durès, c'est un temps orageux, en ce moment même d'ailleurs dans le sud-ouest.
Oui, hein. Absolument, Alexandre, la plus grosse vague est passée dans le Pays Basque, là, pas mal d'orages dans les Landes, qui remontent vers le sud de la Gironde et qui pourront se décaler dans les heures qui viennent vers le Limousin. Hein. Et puis d'autres orages aussi sont en train d'arriver en ce moment en Normandie, ça va se diriger vers la Mayenne, la Sarthe, les Hauts-de-France, et puis on va les retrouver demain matin entre la région lilloise et les Ardennes. Et rebelote, un nouveau passage orageux prévu donc. Donc sur une petite moitié nord demain. Les régions du nord-ouest seront concernées le matin, sauf pour la partie ouest de la Bretagne. Et puis ces averses orageuses passagères circuleront ensuite au nord de la Loire, gagnant progressivement le bassin parisien et les Hauts-de-France dans l'après-midi, puis le Grand Est en soirée. Sur le reste du pays, eh bien nous aurons droit à un ciel généralement changeant, instable, avec des moments ensoleillés. Mais le risque aussi d'une petite ondée localement orageuse est possible, sauf en allant vers la façade est et sur le tiers sud. Là, le soleil sera généreux. Sur qui se montrera plus tardivement du côté de la vallée de la Garonne ou encore en pleine du Roussillon. Du côté des températures, ça baisse à l'ouest. 17 à 21 degrés attendus entre la Bretagne, la Normandie et la Picardie, mais encore 32-33 de maximale du côté de Strasbourg, Lyon, Mâcon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence, Cahors, donc plutôt l'est, comme je vous le disais, et le sud, sous le soleil. Ailleurs, comptez 24 à 31 avec 25 à Paris, 29 à Toulouse, ça c'est l'OTAN, le vent d'OTAN qui limite la hausse des températures, 29 également à Marseille, 30 degrés attendus à Nevers, Limoges et Nancy.
Merci Marlène, on vous retrouve bien sûr sur Europe 1 à minuit pour un nouveau point météo.
Europe 1,
Alexandre Lemaire. Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas, aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître sur Europe 1. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Le rebond aurait été de courte durée à Wall Street où les indices rechutent très lourdement ce soir.
Oui, une séance particulièrement compliquée avec un Dow Jones qui chute de 3,56%, 31 493 points. Et ce n'est pas mieux pour le Nasdaq qui perd 4,73%. Le problème notamment, c'est la publication des comptes de Target. Le distributeur Discount confirme les difficultés de son concurrent Walmart, à savoir que l'inflation des coûts, notamment le coût des salaires, mais aussi du transport ou des matières premières, eh bien cette inflation a fortement réduit les perspectives de bénéfices pour les entreprises de commerce. Alors la sanction est très lourde pour Target qui plonge de 25%, moins 6,8% pour Walmart. Et puis les marchés digèrent aussi les derniers propos de Jérôme Powell. Il a indiqué hier que la Fed relèverait ses taux jusqu'à ce que l'inflation reflue, clairement. Un ton ferme qui inquiète les marchés.
Les valeurs technologiques ont encore beaucoup souffert au cours de cette séance.
Oui, ça ne va pas fort pour Apple qui perd 5,6%, Amazon moins 7%, moins 5% pour Meta, moins 6,8% pour Tesla. Le fabricant de véhicules électriques a perdu sa place dans l'indice ESG. C'est l'indice social et éthique du S&P 500 à New York. Alors c'est à cause de plusieurs accidents de ces voitures et aussi de plaintes au sein de l'entreprise pour discrimination. Elon Musk a comme d'habitude exprimé son agacement sur Twitter. Et puis, puisque rien ne va ce soir à Wall Street, eh bien, le pétrole aussi rechute. Le baril de brut cède 2,8%, le WTI, 109,19 $ sur le NYMEX. Et puis côté devise, l'euro retombe de 0,6%, 1,0478 $.
Le CAC 40 fait marche arrière, il repasse déjà sous les 6400 points à Paris.
Oui, le CAC 40 rattrapé par les craintes en repli de 1,20% à 6352 points. Sale journée pour Orpea. Le titre plonge de 19% après les révélations de Mediapart et du collectif de journalistes Investigate Europe. Avec cette fois la menace d'un scandale financier après des opérations douteuses. L'action Orpea a dégringolé de 70% depuis le début de l'année. C'est nettement mieux pour Air France KLM, plus 4,9% grâce à un partenariat dans le fret aérien avec CMA-CGM, le groupe de transport maritime qui deviendra un nouvel actionnaire de référence d'Air France. C'est du rouge ce soir en Europe sur les marchés. Londres et Francfort perdent plus de 1%, Milan moins 0,9%, Madrid s'en sort mieux, stable ce soir. Et puis le CAC 40 perd 1,2% à 6352 points.
Merci Claire Lemaître.
Alexandre Lemaire sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente l'Invité Éco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Vous êtes étudiant peut-être, ou jeune travailleur. Vous avez des enfants étudiants. Dans tous les cas, vous savez combien il est difficile de se loger à des prix raisonnables dans les grandes villes. L'Invité Éco sur Europe 1, Alexandre Martin. Bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Vous êtes le cofondateur de Colonise. Alors Colonise, c'est une start-up avec laquelle vous proposez un nouveau concept de colocation. C'est la coloc 2.0. Expliquez-nous d'abord justement la différence avec une colocation classique.
Alors voilà, la mission de Colonise, juste pour replacer un peu ce qu'on fait, c'est d'améliorer l'expérience du logement dans les grandes villes. C'est un problème que tout le monde connaît, on ne va pas en reparler. Nous, notre solution, c'est de repenser le format de logement, la façon dont on y accède, les services qu'on va y associer pour fluidifier un maximum l'expérience pour tout le monde et notamment les locataires. Pour ce faire, on va travailler avec des investisseurs immobiliers qui vont acheter des biens, qu'on va transformer, qu'on va meubler, qu'on va adapter à l'usage des gens qui vont y vivre.
Donc c'est meublé, ce sont des colocations meublées.
Et donc c'est meublé. La grande différence de nos colocations avec une colocation classique, bon, déjà je pense c'est le design, l'ameublement qui est vraiment bien pensé, très qualitatif, qui est vraiment pensé sur le long terme.
C'est-à-dire on optimise l'espace aussi.
On optimise l'espace et on va mettre de l'usage dans chaque mètre carré. Et enfin c'est quelque chose qui est clé en main. C'est-à-dire que, historiquement, vous prenez un appartement, il faut que je fasse un contrat d'électricité, il faut que je set up mon Internet, il faut que j'aille chez Ikea pour acheter d'autres mobiliers qui manquent, parce que dans le cadre de la loi, le meublé ne prévoit pas toujours tout ce dont j'ai besoin. Chez Colonize, c'est clé en main, j'arrive avec mes valises, il y a déjà l'électricité, j'ai plus qu'à vivre dans ce lieu.
Donc on signe avec qui ? On signe avec vous ? C'est vous
donc
l'interface ?
On signe avec Colonize, on ne voit pas le propriétaire, on est garant de l'expérience pour le compte du propriétaire. À l'inverse, le propriétaire, qui est soit un particulier, un investisseur, un family office, ne va pas non plus voir son locataire. C'est clé en main également pour lui. On lui offre toute la prestation pour gérer son bien sans qu'il n'ait rien à faire.
Vous appelez ça le co-living sur le modèle du co-working ? Ça ne donne pas forcément toujours envie, a priori, le co-living ?
Alors, moi, je pense, pour donner envie, il faut aller sur notre site livecolonies.com pour voir les espaces. Mais le co-living, ça apporte mieux et plus que soit un appart, soit une colocation. L'idée, c'est que on a pris le meilleur des deux. On a pris le meilleur de l'intimité d'un appartement, d'avoir un vrai chez-soi. En co-living, on peut être dans une chambre avec salle de bain, on peut être dans un studio, on peut être dans un T2, qui est son espace personnel. Mais en plus de ça, on va partager des espaces. Et vu qu'on va être beaucoup à les partager, bah ça va être autre chose que des simples salles en cuisine. Ça peut être un rooftop, ça peut être une salle de coworking, ça peut être une salle de sport. Parfois, on a des piscines. Voilà, vu qu'on est plein, plus on est de fous, plus on rit. Et plus les espaces vont être qualitatifs et plus on aura d'usage chez soi pour un prix qui est similaire ou inférieur à ce que vous pourriez trouver sur les appartements classiques que vous aurez dans le marché.
Vous parlez d'un rooftop, on va jusqu'à l'échelle d'un immeuble, en fait, pour la colocation.
Chez Colonize, on sait gérer un appartement de 25 mètres carrés et une résidence de 15 000 mètres carrés. L'idée, c'est à chaque fois la même promesse, accessible en ligne, en quelques clics, clé en main, bien designée et pensée pour la personne qui va y vivre.
Dans un immeuble, on ne fait pas 500 mètres pour accéder aux parties communes, à la cuisine, aux sanitaires.
Alors, dans un grand immeuble, on va avoir beaucoup de cuisine, beaucoup de salons. On a toujours son sanitaire privatif chez Colonize. Si vous êtes énormément, par exemple, on a une résidence qu'on va ouvrir sur le plateau de Saclay, dans la zone du Moulon, qui va avoir 320 locataires. Bon, bah, y aura beaucoup de rooftop et beaucoup plus d'espace commun que ce qu'on pourrait trouver dans un immeuble plus petit ou dans une maison qu'on propose également.
Alors, plateau de Saclay, l'une des Silicon Valley, en tout cas à la française, ça veut dire que vous vous adressez à un public particulier ? Vous vous adressez justement aux étudiants, aux jeunes travailleurs en priorité ?
Alors, nous, on essaie toujours justement de s'intéresser à la personne qui va habiter chez nous. Et donc, à chaque fois qu'on s'implante sur un territoire, dans un quartier, dans une ville, on va toujours regarder quel est le besoin majeur sur place qui correspond peu ou prou à notre produit et adapter un maximum ce produit. Sur le plateau de Saclay, bon, le besoin il est énorme. Il y a énormément d'universités qui sont installées, des centres de recherche, etc. Il y a un manque cruel de logements aujourd'hui sur le plateau de Saclay. Et donc, il y a un besoin pour l'étudiant, il y a un besoin pour des jeunes travailleurs, il y a un besoin pour des chercheurs, il y a un besoin pour des étrangers qui vont venir soit étudier, soit travailler dans ces centres de recherche. Donc, il y a beaucoup de besoins. On a essayé de dessiner un produit qui s'adaptait à cette demande à la fois étudiante et à cette demande active avec plusieurs niveaux de prestations.
Est-ce que c'est adapté à des couples, par exemple ?
Alors, on a 20% de locataires qui sont des couples.
Qui
donc,
sont des couples ?
Oui, c'est adapté à des couples. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on a envie de vivre refermé chez soi.
Bien sûr.
Et donc, profiter des espaces, ça bénéficie autant aux couples qu'une personne célibataire. L'avantage, c'est que vu qu'ils ont un vrai espace privatif, ils peuvent être en couple chez nous.
Ouais, on vous trouve dans plusieurs villes françaises déjà ?
On nous trouve dans toutes les grandes métropoles
dans
de France.
Dans toutes les grandes métropoles.
Et également à Berlin et à Bruxelles.
Quel budget, en gros ? Ça, c'est très variable, j'imagine. Vous parliez de T2, de chambre.
C'est extrêmement variable en fonction du lieu, en fonction de la typologie de biens qu'on va regarder. En région parisienne, on peut se loger en colocation chez Colonize pour moins de 500 euros. Et tout compris, hein, comme j'ai dit, avec tous les fluides, l'électricité, le chauffage,
avec
Internet.
Avec une file d'attente de 6 mois ou une disponibilité immédiate ?
Alors, il y a beaucoup de demandes. Ouais, l'avantage, c'est qu'on vient de signer un énorme deal investisseur de 1 milliard qui va nous permettre de déployer massivement notre offre. Et donc, il y aura toujours sur notre site des nouveaux biens mis en location parce qu'on ouvre. Mais c'est vrai que les places sont chères et sont peu chères et donc elles attirent beaucoup de locataires.
Vous proposez aussi des services pour le ménage, la lessive peut-être ou
On propose, alors on a des services de laverie, vous avez votre laverie chez vous, donc vous n'avez pas besoin de payer en plus. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un ménage privatif qui est commandable sur notre espace locataire en un clic. Et on va proposer de plus en plus de services de ce type.
Vous avez levé, vous disiez, 1 milliard d'euros ?
1 milliard d'euros, oui. 1 milliard d'euros, c'est un fonds américain qui s'appelle RS Management qui nous confie 1 milliard d'euros pour déployer notre offre de colocation à travers l'Europe. Donc dans une vingtaine
de villes. Des ambitions européennes que vous avez.
Exactement. Oui. En France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne pour commencer. Et comme je disais, dans une vingtaine de villes et qui vont pouvoir créer 2000 appartements, à peu près 10 000 places de logement pour les jeunes. Et on est hyper fiers de ça parce qu'au-delà du montant, ce que ça apporte par rapport au problème du logement, surtout sur des jeunes qui sont la population la plus touchée par ce manque d'offres criant qu'on a dans les grandes villes, en fait, c'est des places de logement qui sont belles, qui sont abordables, qui sont clés en main, qui sont simples d'accès. Et donc, ça va directement dans le sens de la mission de Colonize.
Alexandre Martin, merci, cofondateur de Colonize, la colocation 2.0, le co-living. Je rappelle donc votre site livecolonize.com. Merci. Exactement. Alexandre Martin.
Merci à vous.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À la une de la presse demain, les urgences en PLS. C'est la une de Libé. Faute de personnel, les admissions de nuit ou le week-end deviennent compliquées, voire impossibles dans plusieurs hôpitaux. Situation qui menace de s'aggraver cet été. À la une de l'opinion, les prochaines cibles de ce que ce quotidien appelle les activistes pro-Burkini. Après leur victoire à Grenoble, écrit l'opinion, les militants visent en priorité des villes sensibles à leur cause, comme Lyon, Villeurbanne et des communes de Seine-Saint-Denis. À Kharkiv, théâtre de nouvelles atrocités russes, c'est la une du Figaro. Car après les crimes de guerre découverts au nord de Kiev, l'armée russe a continué ses exactions. On les voit maintenant autour de la seconde ville d'Ukraine. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et c'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Sans vos lunettes, bonsoir Olivier. Est-ce que vous me voyez net et clair?
Je vous vois parfaitement et je vois toujours la marque des lunettes.
Ah voilà, ça y est, on y est.
Donc vous voyez, j'ai quand même une bonne vision. Vous évoquez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs personnes sont venues me parler, évoquer deux sujets qui semblent agiter la société française. Mm-hmm. Le burkini, qui franchement est une aberration totale de mon point de vue, et le pauvre Ghana Gay du Paris Saint-Germain,
dont on vient de parler,
sur qui tout le monde tombe. Donc voilà, j'ai pas mal échangé aujourd'hui. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, je vous invite, si vous voulez commenter cette actualité, ça peut rentrer aussi dans votre témoignage ce soir sur cette libre antenne. Mais il est vrai que la société française est agitée en ce moment par des débats comme cela. Et bon, c'est intéressant. Ça montre que la température monte sur ces sujets-là. Mais je vous avoue qu'avec l'un comme l'autre de ces sujets, je suis... Ça m'énerve.
Je vois ça. Oui, ça c'est épidermique.
Oui, je trouve que, c'est quand vous voyez qu'au Maroc même, pays musulman, le burkini est interdit. Enfin, je trouve hallucinant qu'un maire prenne la responsabilité de faire ça.
Vous rejoignez en cela Fabien choquant. Roussel, du Parti communiste, qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et qui a partagé cette même position.
Complètement.
Olivier.
C'est choquant, et c'est choquant même pour toutes les femmes musulmanes de ce pays qui, à mon avis, ne partagent absolument pas la folie frénétique de cette association. En plus, parce qu'on voit qu'en plus, derrière cette décision du maire de Grenoble, il y a derrière une association qui est pour le moins douteuse dans les buts qu'elle s'est fixés. Mm-hmm. Mais nous en reparlerons, car l'histoire n'est pas finie.
L'histoire n'est pas finie, on va avoir un nouveau gouvernement. Donc,
En plus. Souhaitons que
ces sujets de société sont amenés à évoluer.
En tout cas, ils sont passionnants aussi, parce que ça libère la parole, et il y a pas mal de gens qui, je pense, sur ce type de sujet, sont ces fameux Français, vous savez, que l'ancien Premier ministre évoquait, et qui sont calmes, silencieux, et j'ai l'impression que ces deux sujets-là, en fait, en tout cas aujourd'hui, j'en ai parlé pas mal, j'ai pas mal échangé avec des personnes qui venaient m'en parler. Donc,
C'est des sujets qui font réagir, en effet.
Voilà. Et vous en reparlerez dans votre flash tout à l'heure à 23h, peut-être.
Doute.
Et puis peut-être à minuit dans votre journal.
Également.
À tout à l'heure, mon cher Alexandre.